Nzambira samirana.
Le journal avec Jean-Georges Kigogora.
Merci d'écouter la radio Nzamba. Arrêtez, car oui, c'est le moment du journal en français. Voici d'abord les principaux titres. Un groupe de 12 personnalités composées de défenseurs des droits de l'homme et des journalistes présumés dans le coup d'État manqué de 2015 veulent saisir les juridictions internationales. Ils demandent le concours de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour avoir accès à leur dossier dans le procès. Et puis les kiosques de certains quartiers de la mairie de Bujumbura ont été détruits conformément à la décision du ministère ayant à l'intérieur dans ses attributions. Les commerçants et les habitants sont mécontents. Ils disent qu'ils n'ont pas été suffisamment informés. Voilà pour le sommaire de ce journal.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Deux personnes sont mortes foudroyées dans l'après-midi de ce mercredi sur la colline de Migongo de la commune de Kiwago. Trois autres ont été grièvement blessés et subissent des soins de santé de la place, comme le font savoir les initiatives à la base qui demandent à la population de ne plus s'abriter sous les arbres au moment des pluies orageuses. Et dans la même province de Makamba, un corps sans vie d'un homme a été retrouvé ce jeudi dans l'avant-midi selon une source policière. Le corps a été vu par les passants dans la rivière de Magaradi, séparant la Tanzanie et le Burundi. Les faits se sont passés sur la colline de Muhema, zone Mugeni, de la commune de Kayogoro, dans la province de Makamba. L'officier de la police judiciaire s'est déplacé pour faire un constat. C'est le deuxième corps sans vie retrouvé à moins de 2 mois sur cette rivière côté Burundi. Le premier corps en décomposition avait été trouvé au début de ce mois. Plusieurs Burundais passent sur cette frontière dans la rivière Anala et en revenant de la Tanzanie. La plupart y ont toujours subi des extorsions. Les responsables administratifs et policières et les jeunes immunisés du parti au pouvoir étaient accusés de tremper dans les extorsions et exécutions sommaires ces derniers temps. Je vous le dis en titre, un groupe de 12 présumés putschistes du mois de mai 2015, comprenant les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes, constatent que le dossier avance de façon secrète. Ce groupe vient de solliciter l'intervention du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour qu'il puisse avoir accès au contenu des dossiers qui semblent cachés. Ce groupe veut porter l'affaire devant les juridictions internationales. Suivez Maître Dieudonné Bachaï Chizé, il est un de ces présumés.
Pas longtemps qu'on a appris qu'une décision politique auréolée des couleurs de la justice dépendante de l'exécutif a été rendue il y a 7 mois de cela, mais ça a été porté à la connaissance du public il y a 2 semaines. On a essayé d'entrer en contact avec la Cour suprême pour pouvoir recevoir la copie de jugement et la copie du dossier dans son ensemble, comme le prévoit l'article 234 du Code de procédure pénale. Mais le greffe nous a rétorqué que le dossier serait conservé dans les tiroirs du président de la Cour suprême. C'est une aberration qu'une justice essaie de condamner des innocents en toute opacité et que on tente de leur cacher même le contenu de ce dossier monté de toutes pièces. Et c'est pour cette raison donc qu'on a saisi le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour qu'il puisse intervenir en vue de pouvoir décrocher auprès de la Cour suprême le droit de recevoir la copie de ce dossier. Après réception de ces documents, nous comptons porter cette affaire devant les juridictions nationales et internationales pour battre en brèche cette mascarade.
Entre-temps, l'Organisation mondiale contre la torture et la Fédération internationale des droits de l'homme exhortent la justice burundaise de revoir le récent procès qui condamne certains défenseurs des droits de l'homme accusés d'avoir participé au putsch manqué de 2015. Delphine Reculot, directeur de l'Observatoire de la protection des défenseurs des droits de l'homme, dit que la procédure a été émaillée de beaucoup d'irrégularités.
Alors tout d'abord, nous dénonçons le fait que ces défenseurs soient harcelés initialement pour leurs activités de défense des droits humains, en premier plan. Et par ailleurs, il faut savoir que les 12 défenseurs qui sont concernés sont actuellement en exil et n'ont même pas été informés de la signification du jugement qui aurait été prononcé le 23 juin dernier par la Cour suprême du Burundi. Ils n'ont pas pu obtenir une copie du jugement, donc ils ne peuvent même pas contester le jugement qui les aurait condamnés à perpétuité, ce qui est quand même non négligeable. Et donc nous condamnons non seulement le harcèlement judiciaire à leur encontre qui vise à les intimider, mais aussi l'absence du respect du droit à un procès équitable. Et de manière plus générale, nous demandons tout simplement que cette procédure et les actes d'harcèlement à leur encontre soient suspendus.
Et dans le même dossier, la coalition de défense de l'opposition CFO Arusha a sorti une déclaration sur les condamnations du deuxième jugement intervenu dans l'affaire de la tentative de coup d'État manqué de 2015. Frédéric Kevavrimvira, président de la coalition, invite la population d'être vigilante vis-à-vis du pouvoir CNDD-FDD qui a l'objectif d'anéantir l'opposition et de spolier leurs biens. Il fait également un clin d'œil à l'endroit de la communauté internationale de se méfier de la langue de bois utilisée par les acteurs politiques du régime de Gitega.
C'est que c'est un faux procès tout simplement parce que les personnes victimes de ce jugement n'ont pas eu l'occasion de défendre leur cause, mais on voit aussi qu'ils sont condamnés à des peines arbitraires, à des peines inconcevables, et quand même rester en prison à vie, et au même moment qu'on te dit tu ne peux pas prétendre aller dans des fonctions publiques ou privées, mais c'est d'abord une contradiction. Mais au-delà, il y a justement ces sommes qui sont exigées pour l'État, pour le CNDD-FDD, pour des privés. Et tout cela montre que ce sont un procès unique dans son genre, parce que combinant des politiciens, des hommes, des médias, et exact aussi de la société civile, ainsi de suite des militaires, des policiers. Donc ça n'existe nulle part parce que chacun est responsable devant la loi. Jamais un groupe ne peut pas être condamné à une même peine comme si tout le monde agissait collégialement. Non, ça n'existe pas. Voilà, donc pour toutes ces raisons et d'autres non évoquées dans la présente déclaration, la CFOR Arusha condamne et rejette le jugement RPS 100 qui ne constitue qu'une mesure supplémentaire de répression à ceux qui revendiquent la justice et le respect de leurs droits constitutionnels. Et enfin, la CFOR Arusha invite toutes les forces vives à redoubler d'efforts pour contrer la montée en force du totalitarisme, de l'obscurantisme politique au Burundi. Et à la communauté internationale, la plateforme politique l'invite à plus de vigilance en évitant de succomber aux tentatives d'enfumage du pouvoir des généraux en place à Gitega.
Voilà, c'était Frédéric Kibavunyuvira. Il est président de la coalition des forces de l'opposition, CFOR Arusha.
Comment se laver les mains pour éviter la propagation de la COVID-19? Il faut se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Le savon doit rester sur nos mains au moins 3 minutes et rincer avec de l'eau propre. Bien frotter entre les doigts, dans les ongles et les manches pour éviter que les virus restent cachés dans ces endroits. Quand faut-il se laver les mains? À chaque fois que tu dois entrer dans des bâtiments où travaillent les autres comme des bureaux, des marchés, des écoles, les églises, les restaurants, les cabarets et j'en passe. Avant de manger, quand tu rentres chez toi, avant de porter un masque pour éviter de le contaminer avec les microbes qui pourraient être sur tes mains ou à chaque fois que tu enlèves le masque car lui aussi peut contaminer tes mains.
Ceci est un message de la radio Inzamba Agateka Kawe
en partenariat avec Internews, financé par l'Union Européenne.
La suite de l'actualité, c'est la du Nzamba, arrêté à Kawe, les kiosques construits tout au long des routes, des quartiers Nyakaviga 3 et Oero 1, à côté de l'ancien marché de la mairie de Bujumbura, ont été détruits ce jeudi matin. L'opération était supervisée par des administratifs et des agents de sécurité. Les commerçants sont mécontents. Ils n'avaient pas été informés pour préparer la démolition, ce qui pourra leur causer un préjudice important. Le point avec Audace Nimona.
L'information qui nous parvient à partir de Bujumbura indique que tous les kiosques situés en bas de la BNDE, à côté de l'ancien marché central de Bujumbura, ont été détruits ce jeudi matin. Cette démolition était supervisée par les administratifs et les agents de sécurité. Le même travail a continué dans la zone Nyakaviga et le quartier visé était Nyakaviga 3, tout près du campus universitaire de Mutanga. Les mêmes sources indiquent aussi que cela a été une surprise chez les commerçants. Ils disent avoir perdu la tête du fait qu'ils n'ont pas été avisés pour préparer le terrain. À côté des commerçants, les habitants du quartier se lamentent également. Les étudiants et d'autres travailleurs qui se rationnaient dans de petits restaurants vont connaître des difficultés. Les commerçants demandent l'indemnisation du fait qu'ils n'ont pas été avertis et qu'ils sont exposés à une extrême pauvreté. Vous saurez que le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire avait donné une dérogation qui irait jusqu'au 1er mars 2021. Nous avons cherché le maire de la ville de Bujumbura pour lui demander pourquoi l'administration s'est précipitée à démolir les kiosques avant la date annoncée par le ministre, mais sans succès.
C'est la grogne de certains habitants de la mairie de Bujumbura suite à la décision du ministre Bondé de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Gervais Ndila Kobucha, annonçant que depuis le mois de mars, aucune boutique ne sera dans les maisons d'habitation et que toute personne occupant ces maisons doivent aller dans les marchés publics afin de payer les impôts à ses habitants. Contacté par la radio Inzamba, Arrêté Kawe demande au président de la République Bondé, Evariste Ndayishimiye, de revenir sur sa décision.
Il nous envoie dans des marchés publics alors que les marchandises que nous vendons dans nos boutiques émanent de ces marchés publics. Qu'est-ce qu'on va gagner quand nous serons dans ces marchés alors que les prix n'étaient pas les mêmes? Autre chose, il y a ceux parmi nous qui avaient déjà payé un loyer de toute une année aux propriétaires de ces boutiques. Ont-ils déjà préconisé comment ces derniers vont nous rembourser l'argent du loyer?
Quand une personne arrive à la maison vers 18h ou 19h venant du travail, c'est difficile de se rendre encore au marché qui se trouve à 30 minutes de chez lui pour chercher de quoi manger et je ne pense pas qu'il y a des marchés qui restent ouverts jusqu'à 20h.
Les taxes
que nous donnons vont en banque pour le compte de la mairie de Bujumbura. Vous savez qu'il y a des marchés privés, mais auxquels l'État perçoit quelques pourcentages de ces marchés, entre autres le marché de chez Sion, que l'État met en place une commission pour étudier la faisabilité de ce projet.
Nous demandons au président de la République de dire à ceux qui ont pris cette décision de la supprimer, parce qu'ils auront pu au moins donner quelques mois aux concernés pour qu'ils puissent se préparer, que toute personne qui puisse aider ces boutiquiers le fasse, sinon le pays va mal, plus particulièrement la vie de ces petits commerçants.
C'était les habitants de la mairie de Bujumbura qui demandent au ministre Bondé de l'Intérieur, Gervais Ndila Kobucha, de revenir sur sa décision.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Dernier dossier de ce journal, la forme des diasporas bondaises en Europe a adressé une correspondance au président du Parlement européen pour exprimer son désarroi à propos de la correspondance de que ce Parlement a reçue de la part d'un Bondé, Jafet Logentine Daïchimié, résident en Norvège, qui prétend diriger la diaspora bondaise pour Gracien Rokindi, qui est la présidente de la FODIB. Jafet Logentine Daïchimié n'a jamais été élu pour diriger une instance de la diaspora bondaise en Europe. Il a été nommé par le parti CNDD-FDD pour le servir comme ambassadeur. Emmanuel Ndayishimiye.
Dans cette correspondance adressée au Parlement européen, ce mercredi, le Forum des diasporas burundaises en Europe, FODIB, dénonce l'usurpation de la représentation de la diaspora burundaise. Selon Graciel Kindikiza, président du FODIB, des représentants de leurs organisations ont été élus régulièrement dans des assemblées générales tenues dans chaque pays en Europe. Les différentes organisations de la diaspora en Europe ont décidé de se regrouper au sein du Forum des diasporas burundaises, FODIB, avec un président et un vice-président élus par les représentants de ces instances. Le FODIB indique avoir envoyé cette lettre au président du Parlement européen pour exprimer son désarroi à propos de la lettre que ce dernier a reçue de la part d'un Burundais résident en Norvège qui se prétend diriger la diaspora burundaise. Ce Burundais, Japhet Logenti Ndayishimiye, n'a jamais été élu pour diriger une instance de la diaspora burundaise. Il a été nommé par le parti CNDD-FDD pour servir d'ambassadeur. Et tous ces actes sont dictés par le gouvernement du Burundi et ne visent qu'à diviser la diaspora burundaise, souligne le président du FODIB, Gratien Rukindikiza. Pour rappel, Japhet Logenti Ndayishimiye, le Burundais résident en Norvège, avait récemment adressé une lettre au président du Parlement européen au nom de la diaspora burundaise de l'Europe, critiquant un groupe de 43 députés européens qui ont alerté pour démontrer que la situation des droits humains au Burundi reste préoccupante malgré l'ouverture du dialogue entamé entre le gouvernement burundais et l'Union européenne.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci bien de l'avoir écouté. Jean-Georges Kibora vous l'a présenté avec la collaboration technique de Théodemir Manirambona. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.